18-20. Fabienne Synthès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four, le dossier des migrants. Jean-Marc continue d'empoisonner, c'est le moins qu'on puisse dire, l'agenda européen. Nouvelle controverse sur l'accueil d'un nouveau navire, le Lifeline, qui devrait finalement accoster à Malte. C'est prévu ce soir. Et puis surtout, négociations tendues avant le sommet de Bruxelles. Ce sera demain jeudi et vendredi. L'Europe donc de plus en plus décidée à déléguer ce sujet à des pays tiers, à ses frontières. L'idée pourrait paraître séduisante et facile, mais dans votre monde à l'envers, Jean-Marc Four, vous, ce soir, vous dites attention, cette idée a un prix et le prix est élevé.
Et ce soir, je vous ai apporté un dictionnaire, voilà. Le voici, un c'est le petit
vrai.
Robert.
Vous êtes encore
absolument.
Le dernier
et vous allez voir,
dictionnaire.
On va l'ouvrir à la page sous-traitance. Voilà, nous y sommes. Sous-traitance, définition. Contrat par lequel une entreprise demande à une autre entreprise de réaliser une partie de son travail. Eh bien, ça pourrait s'appliquer à la politique migratoire de l'Union européenne. Je m'explique. Demain donc à Bruxelles, c'est demain la partie migrants du sommet, l'Europe ne va pas s'entendre sur la répartition en son sein des migrants déjà présents dans l'Union. Les pays de l'Est sont contre. Elle ne va sans doute pas s'entendre non plus sur la création de centres d'accueil fermés dans les pays de premier accueil, toujours au sein de l'Union. Pour le coup, c'est l'Italie qui n'est pas d'accord. Elle va peut-être s'entendre sur le renforcement des effectifs de police aux frontières, c'est le dispositif Frontex, mais annoncer un chiffre même spectaculaire, 10 000 hommes, ne réglera pas les problèmes de coordination logistique entre toutes ces troupes. Alors qu'est-ce qui reste comme point d'accord au niveau européen ? Dénoncer les ONG, un peu facile quand même.
On a entendu.
Voilà, et surtout s'entendre sur ce qui était inimaginable il y a encore quelques mois, délocaliser les centres d'accueil ou de tri des migrants. Délocaliser, ça veut dire les installer en dehors de l'Union, confier à des pays tiers la tâche de séparer les réfugiés politiques des émigrés économiques. Pas simple à la tâche, soit dit en passant. En tout cas, nous y voilà, c'est bien quoi ? De la sous-traitance. On confie à quelqu'un d'autre le traitement d'un sujet dont on ne veut pas s'occuper soi-même parce qu'on estime le coût trop élevé, en l'occurrence le coût électoral trop élevé. Le problème, c'est que la sous-traitance, ça peut aussi coûter très cher.
Donc là, vous dites financièrement ?
Financièrement d'abord, oui. Les sous-traitants, on le sait, sont identifiés. Il y a d'abord les pays de transit, la Turquie, la Libye, la Tunisie, l'Égypte, le Niger. Et là, on a déjà du recul sur le sujet avec l'exemple turc, puisque l'Europe a passé un deal avec Ankara il y a 2 ans. C'est simple, on paye la Turquie pour qu'elle garde les réfugiés et aujourd'hui, elle en a près de 4 millions. Sauf qu'en contrepartie, combien l'Europe a-t-elle déjà dépensé ? 7 milliards. Et 7 milliards de plus, on double la mise, pour les 3 ans à venir. Avec un petit souci quand même, hein, la Cour des comptes européenne dit ne pas bien savoir où va l'argent en Turquie. Deuxième exemple, la Libye. Centre de rétention, formation des gardes-côtes, aide européenne au développement. C'est une formulation pudique. En réalité, il y a très très peu de garanties sur l'aide aux migrants dans le respect du droit. On l'a entendu avec le reportage de Géraldine Allot dans le journal de 18h tout à l'heure. Et là, déjà près de 250 millions d'euros versés à la Libye, dont on ne sait pas précisément non plus dans quelle poche ils vont. Et puis ensuite, au-delà des pays de transit, il y a les pays de départ. Le Soudan, la Somalie, l'Afghanistan, etc. Mais alors là, si on veut vraiment dissuader les candidats à l'exil de partir, ce sont pour le coup des dizaines et des dizaines de milliards qu'il va falloir débloquer pour relancer des machines économiques qui sont à l'arrêt quasi complet.
Mais alors en même temps, soyons cyniques, est-ce que ça vaut pas le coup de dépenser de l'argent, y compris beaucoup d'argent, si politiquement on gagne ?
Évidemment, le raisonnement se défend, mais est-ce qu'on est bien sûr d'y gagner politiquement ? Passons sur la dimension morale du sujet, le renoncement aux valeurs d'accueil, de partage et d'humanisme qui ont fondé l'Europe. Et restons sur ce que vous disiez, c'est-à-dire le cynisme, la politique au sens de l'intérêt, bien compris Machiavel. La sous-traitance, ça consiste en l'occurrence à aider d'abord des tyrans. Dans les pays de transit, seuls les régimes, disons, forts, sont prêts à assumer le coût politique. Nous finançons donc le président Recep Tayyip Erdogan en Turquie et les milices en Libye. Il y a bien dans la liste des sous-traitants potentiels des pays plus fréquentables, par exemple l'Albanie. Mais pour le coup, son Premier ministre ne veut pas entendre parler de tels centres sur son sol pour des raisons morales. Mmh. Tiens, voilà la morale. Et dans les pays de départ, cette fois, cette politique, elle va favoriser des accords douteux avec des régimes autoritaires, du Gabon au Soudan, passant par le Cameroun. Empêchez vos ressortissants de partir et nous fermerons les yeux sur vos agissements en matière de liberté. Donc évidemment, à court terme, la sous-traitance est séduisante. Mais à moyen terme, on se soumet potentiellement au chantage des dictateurs sur le mode « continuez de m'aider hein, parce que sinon je vais ouvrir les vannes migratoires ». Et à plus long terme, on n'évitera pas de nouvelles vagues d'exode, encore plus importantes au vu de l'explosion démographique en Afrique. Ça s'appelle le rêve d'une vie meilleure, c'est le propre de l'homme et la sous-traitance n'y changera rien.